Bonjour à chacun et chacune. Heureux d'être là ce matin. Je sentais à travers ce temps de louange, à travers la prière d'introduction de Jean-Luc, à travers les prières qu'il y a, que oui, c'est un temps un peu où on fait une pause. On ne fait pas la pause, c'est pas relâcher. C'est Seigneur, on a vécu cette année, et on se dit, mais voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Deux prières m'ont particulièrement touché. Prière de reconnaissance pour ce salut. Seigneur, tu m'as sorti de la boue. On réalise, et je crois qu'on a besoin de le réaliser. Ça s'est produit une fois dans nos vies. Cette première illumination. Et quand on s'en rappelle, on se dit, mais Seigneur, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je voyais, on est libre avec Laetitia, je voyais Raphaël qui se promenait, et j'avais envie de dire à Laetitia, est-ce que t'imagines qu'il y a quelques années, que ta petite fille allait se promener, entourée de chants de louanges, de bénédictions, d'entendre si jeune la parole de Dieu. Parce que ce qu'on a entendu dans nos cœurs, ce qu'on a vu de nos yeux, ça a marqué nos vies de manière profonde. Et je mesure le privilège pour ceux qui naissent dans des familles où Christ a été accepté. Il y a sans aucun doute un privilège. La bénédiction va jusqu'à 1000 générations de ceux qui l'aiment. Ça me touche parce que j'ai connu le Seigneur plus tard et on voit, tandis que le Seigneur pardonne complètement, tandis qu'il le restaure, tandis qu'il libère, il reste, c'est incontestable aussi, des conséquences du péché dans la vie, dans nos familles, des fois dans les générations. C'est un fait. Et nous avons cette espérance et nous tenons bon jusqu'au bout parce que nous savons qu'une brèche est ouverte et que les choses vont continuer. Mais il faut le reconnaître, c'est pas toujours facile. Et puis, il y avait cette prière, Seigneur, parle-nous, Seigneur. Parce que Seigneur nous a rachetés, le sang de l'agneau est tout suffisant, c'est la condition nécessaire et suffisante pour être purifié de péché et engager une nouvelle vie. Mais les choses ne s'arrêtent pas là, les choses commencent là. Ensuite, il s'agit de suivre l'agneau. Un excellent livre que je vous recommande de Theodore Austin Spark, un Américain, qui s'appelle « Ceux qui suivent l'agneau ». Les 144 000, alors nombre symbolique, de ceux qui ont suivi l'agneau, partout où il va. Et on a entendu aussi dans les prières, dans les supplications, dans les combats, « Mais Seigneur, je veux te suivre, mais je vois bien, ça tiraille. » Oui, parce que chacune de nos vies a été marquée par des souffrances, par des injustices. C'est vrai. Tous. Et quand on accompagne les chrétiens d'une manière ou d'une autre, selon le service et ce que le Seigneur nous a demandé, on le constate de plus en plus. Je dis souvent, chacun a dans sa vie une plaie énorme. Ils sont différents. Des fois, c'est des brisements de coupe, des deuils, des choses qui ont abîmé les vies. C'est incontestable. Devant ces souffrances, devant ces injustices réelles que Dieu connaît, nous avons réagi comme nous avons pu. Le désir d'être aimé, le désir d'être reconnu, qui est légitime, c'est dans l'homme, a été déçu toujours. Tout simplement parce que nous attendons de l'homme aimé, de l'époux, de l'épouse, des enfants des fois, souvent, d'un frère, d'une sœur, d'un patron, d'un collaborateur. Nous attendons des choses que nous-mêmes sommes dans l'incapacité de donner, tout simplement parce que nous sommes limités et marqués par le péché. Ce qui est bon, va dire Paul, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Proverbe 30, verset 15, rappelle, la sangsue a deux filles, donne. Trois choses sont insatiables, quatre ne disent jamais assez, le séjour des morts, la femme stérile, la terre qui n'est pas rassasiée d'eau, ça vient, et le feu qui ne dit jamais assez. Alors, ce matin, je voudrais parler de la bonté et de la fidélité de Dieu. Mais voilà, devant ce que je viens de dire, et je sais la réalité pour beaucoup, ça pourrait susciter l'incrédulité pour celui qui regarde aux circonstances traversées ou peut-être aux circonstances actuelles de sa vie. Parler, il faut être culotté pour parler de la bonté, de la fidélité de Dieu. Mais déjà, plusieurs se disent peut-être, mais Robert, nous sommes chrétiens nés de nouveau. Nous proclamons et connaissons la bonté et la fidélité de Dieu. Il nous a sauvés. Qu'est-ce que tu veux nous parler? C'est évident, Dieu est bon et fidèle. On le chante tous les dimanches. Oui, et pourtant, il faut bien reconnaître qu'à travers la vie même de l'Église et des relations interpersonnelles, que nous avons encore bien besoin d'expérimenter combien la bonté et la fidélité de Dieu à notre égard est grande. Et lorsque cela est établi dans nos cœurs, alors nous pouvons manifester une bonté, une fidélité au sein du corps à l'égard de nos frères, et ceci de manière durable. Voilà pourquoi ce matin, je voudrais vraiment parler de la bonté et de la fidélité de Dieu. Premier constat dans la parole, bonté et fidélité de Dieu sont liés. À plus de 33 reprises dans l'Ancien Testament, la bonté de Dieu est liée à sa fidélité. Les deux mots sont accolés. Comme si la bonté n'était bonté que par la fidélité de celui qui manifeste la bonté. Ou autrement dit, une bonté qui ne serait pas manifestée de manière durable, fidèle, c'est-à-dire quelles que soient les circonstances, ne serait pas la bonté. Et vraiment, cela m'a marqué. Bonté et fidélité sont reliés en permanence. Là, nous devons reconnaître notre difficulté. Car s'il est vrai que notre âme est souvent touchée, tous les chrétiens, ils sont souvent touchés et émus, remplis de compassion, et c'est une bonne chose. Nous sommes conduits parfois vers des élans de bonté devant des situations de détresse, qu'elles soient matérielles, morales, affectives. Il nous faut bien reconnaître que si la situation de celui ou de celle que nous aidons ne s'améliore pas assez rapidement à notre goût, ou que sa vie ne change pas suffisamment rapidement, ou dans la direction que l'on souhaite, la lassitude peut venir. Il arrive que la lassitude vienne. Voire, la lassitude peut laisser place à du jugement. Ça peut arriver. Ça peut arriver. On ne le dit pas, mais on peut le penser. Avec tout ce que j'ai fait pour lui ou pour elle, quand même, depuis toutes ces années. Si c'est le cas, comme la parole lie indissociablement bonté et fidélité, si de l'énervement, si de la lassitude a manifesté la bonté, la patience dans nos vies arrive, il nous faut reconnaître que des scories, des motivations étaient dans nos cœurs, bien loin de la définition de la charité dans 1 Corinthiens 13, l'amour supporte tout, il endure tout, il espère tout. Il espère tout, il croit tout. Compliqué croire tout dans le monde, on ne nous apprend pas ça à croire tout. Je viens d'un pays, d'une région, une petite plaisanterie, qui cultive beaucoup de céréales, c'est un travail difficile, bien sûr, l'agriculture, où on aurait tendance des fois à labourer même les routes pour ne pas perdre. Et il y avait un proverbe qui me faisait rire autrefois, c'est « Méfie-toi de ce qu'on te donne. » Comme si ce n'était pas possible de donner. Crois tout. Est-ce qu'on ne va pas passer pour être trop bon des fois ? Et bon, lorsqu'on croit que ça va avancer, mais quand on constate que peut-être on a été floué, une tendance à dire peut-être le prochain coup, je ferai gaffe. Alors, oui, il faut être prudent, on est incité à la prudence aussi. Mais il nous faut accepter aussi de continuer. De continuer. Les proverbes nous interpellent. Les proverbes et puis un texte de Job, quelques versets là nous interpellent. Proverbe 20, verset 6 dit ceci. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera ? Proverbe 17, verset 17 nous dit « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. » D'autres passages de Proverbes nous montrent que des fois le malheur éloigne un peu. Que quand il y a la richesse et l'abondance, il y a du monde. Quand le malheur arrive, ça s'éloigne. Bonté et fidélité sont liées. Job, chapitre 6, verset 14. Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte de l'Éternel. Ça me bouscule. Ça me bouscule. Sans doute, hein, si un passé religieux, mais même quand on se convertit, on découvre les merveilles, on se dit « Seigneur, comment peut-on t'abandonner ?» C'est possible. C'est possible. Dieu sait cela, puisque il dit que lui est fidèle, et même si nous, nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. La fidélité, c'est lui, ça. Nous, on peut, oui, renier, on peut abandonner, on peut être infidèle. On peut s'éloigner, on peut s'écarter. Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. Peut-être celui qui a souffert et qui a oublié l'immensité de l'œuvre de Jésus-Christ, qui l'a peut-être connu, qui l'a expérimenté, qui a été ému, qui a été bouleversé dans son cœur, qui a connu des expériences extraordinaires. Et puis au jour de l'épreuve, d'une autre épreuve, puis d'une autre épreuve encore, à un moment, il s'est éloigné. La parole nous dit, celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Le Seigneur m'a pris sur des choses, même des serviteurs de Dieu, qui parfois ont chuté. Cette limitation à la manifestation de la bonté à travers des actes, des attitudes et des paroles dans nos vies nous invite à vérifier la source. Qu'est-ce donc que cette bonté si fidèlement manifestée, si souvent soulignée par le psalmiste, par David en particulier ? Pourquoi David si souvent souligne la bonté et la fidélité de Dieu ? Pourquoi il est certain que cette bonté, cette fidélité ne le laisseront pas. Le psaume 89, verset 15, nous éclaire. Il dit, je le cite assez souvent, « La justice et l'équité sont la base de son trône. La bonté et la fidélité sont devant sa face. » Ce verset nous parle de rien de moins que du plan de Dieu, de l'agneau immolé dès la fondation du monde. Voilà de quoi nous parle ce verset. Dans 1 Pierre 1, il nous est dit « Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. » C'est cet agneau-là qui a manifesté et rendu possible notre accès à la bonté de Dieu. C'est cet agneau-là, par son obéissance, qui a satisfait la justice par rapport à la relation qui avait été rompue dès l'Éden. Mais ce qui s'est passé à la croix est injuste, c'est ignoble. Un innocent qui a manifesté tant de bonté est crucifié, injurié, méprisé, il n'ouvre pas la bouche. Plus que cela, il est abandonné, nous l'avons chanté. En finale, par celui qui, tant de fois, il a appelé son Père. C'est là un Dieu de bonté, un Dieu de fidélité. Oui, c'est là. Et cela a été possible parce que cet agneau-là, Jésus-Christ, il connaît la nature du Père. Il connaît le Père, car il est avec le Père dès le commencement. Il était avec le Père dès avant la création du monde. Et il a été envoyé par le Père, afin que le Père, le Dieu invisible, soit connu des hommes, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et celui qui nous a fait connaître Dieu et sa bonté. Le Père a déclaré son amour pour ce Fils, qu'il sait être l'agneau qui va être immolé. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Le Fils sait qu'il est aimé de son Père. Et c'est souvent cela qui nous manque. Nous avons besoin de le sentir, mais si nous ne le sentons plus, c'est comme si nous ne le savions plus. Le Fils, Jésus-Christ, sait qu'il est aimé de son Père. Jean 17, verset 24. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Jésus veut cela. Il veut que ceux que le Père lui a donnés connaissent ce que lui sait, qu'il a été aimé dès avant la fondation du monde. Et c'est ça que nous oublions. Nous avons été aimés avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux qui ont connu que tu m'as envoyé, je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Voyez à travers ces quelques versets. Ces versets nous décrivent ce chemin par lequel la bonté de Dieu se manifeste à notre égard et la manière dont elle nous est révélée. Premièrement, le Fils est aimé du Père avant la fondation du monde. Le Fils connaît le Père par opposition au monde qui ne connaît pas le Père d'amour. Le monde sait que Dieu existe et refuse de le glorifier, ça c'est une chose. Mais le Fils connaît le Père. Troisième temps, le Fils désire que ceux que le Père lui donne le connaissent. Pourquoi ? Afin que l'amour dont il a été aimé soit en eux, soit en nous. Et Jésus dit, afin que moi qui suis l'agneau immolé, maintenant je vive en eux. Alors ils connaîtront ce qu'est la bonté du Père. Sa bonté envers nous, elle a été manifestée alors que nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. C'est cette bonté-là et cette fidélité-là que David a perçue prophétiquement toute sa vie. Ta bonté s'élève au-dessus des cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Ça paraît quelques mots, bonté, fidélité, la bonté, on l'emploie tellement. Mais David a saisi cela. David a saisi cela. Je n'ai pas le temps ce matin, mais vous connaissez le parcours de David. Le parcours de David. Combien de trahisons, combien de péchés lourds dans sa vie, mais combien de trahisons de son propre fils, d'Absalom, de ses généraux, de ceux qui l'ont suivi toute une vie. À un moment, ils l'ont lâché. Figure de Christ. Je voudrais encore, pour parler de cette bonté, voir comment Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, est littéralement saisi par cet amour incompréhensible de Dieu, alors même qu'il expose la folie de Dieu, selon l'homme, dans le choix de donner son Fils pour acheter l'humanité perdue. Je ne vais pas vous exposer tout Éphésiens, mais après avoir expliqué, j'allais dire contemplé, le plan du salut offert à tous par la croix, juifs et païens, il conclut cet enseignement ainsi. Et je vous invite à prendre dans Éphésiens 3, par exemple. On va lire deux passages un peu longs. Dans Éphésiens 3, versets 8 à 19. « il a exposé dans une première partie, on va dire, doctrinale, mais très spirituelle finalement, la position que Christ a dans les lieux célestes, la position que nous avons assis avec lui dans les lieux célestes. Après avoir expliqué que le salut est pour juifs et grecs, le salut il est universel, il dit ceci: « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous, elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Que vous puissiez comprendre la hauteur, la largeur, la profondeur et la hauteur. Les trois dimensions, on intègre à peu près au fil des années. La quatrième, on a du mal, je ne sais pas où ça nous mène. Voilà la révélation que Paul a. C'est pour ça que la parole est importante. Parce que ces choses, elles ont été cachées, mais elles nous sont maintenant révélées. Est-ce que, frères et sœurs, nous mesurons ces choses? Dans ces épîtres de Paul, Dieu nous révèle les mystères. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Les mystères sont maintenant révélés. Le monde occulte garde des mystères. Le Seigneur révèle à son peuple et à ceux à qui il a donné la vie, révèle ces mystères. Où allons-nous chercher nos sources? Où allons-nous laver nos cœurs, si incrédules, si oublieux de ces choses merveilleuses? Où allons-nous chercher? Si ce n'est, je suis bouleversé à mon tour devant les révélations que Paul a eues. Le Seigneur ne nous donnera peut-être pas les mêmes, il ne nous emmènera peut-être pas au troisième ciel. Mais regardez ces textes. Il me semble que nous avons besoin, oui, de nous imprégner de cette dimension de la bonté et de la fidélité de Dieu. Et ce, d'autant plus que se manifeste aujourd'hui dans le monde une volonté de paraître bon et juste, qui, excusez-moi l'expression, relève de la couverture d'Adam avec la feuille de figuier. Le monde veut paraître bon et juste. Le monde veut paraître bon et juste. J'entends dire que des hommes d'affaires puissants donnent généreusement. Qui 1%, qui 2%, qui 5%. Tandis que dans le même temps, notre information qui m'est parvenue, les 10 fortunes les plus importantes de la planète se sont accrues de, je crois, 25% en un an. C'est ce que j'appelle la bonté feuille de figuier d'Adam. Je me cache. Ça veut dire une chose quand même. L'homme sait. L'homme sait. L'homme sait dans son cœur qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il ne peut pas trancher. L'homme sait. Nous sommes interpellés que ces choses ne soient pas au milieu de nous. Nous pouvons avoir ces combats. Abordons-les. Abordons-les. Je sens ces prières qui montent. Tranchez. Dieu ne regarde pas à ce que l'on donne, mais si l'on se donne. Dieu ne regarde pas ce que l'on donne, mais si je me donne. Lui s'est donné lui-même. Beaucoup de points pourraient être développés. Mais je pense qu'il y a là quelque chose. Il y a là quelque chose pour nos communautés, pour les œuvres. Seigneur, parle-nous. Montre-nous. Mais Seigneur, si je commence par là, mais je vais y laisser tout entier. Oui, tu vas laisser tout entier. Oui, tu vas laisser tout entier. Mais tu ne vas pas être broyé. Il veut des vies livrées. Je me rappelle dans groupe de prière que nous avions, c'est quelque chose qui me revenait souvent. Seigneur, ce que tu veux, c'est des vies livrées. Que le colis soit livré, qu'il puisse en faire ce qu'il veut. Et c'est pour ça que nous avons besoin de nous revenir, de nous redire la bonté et la fidélité de Dieu. Sinon, c'est l'ennemi qui nous susurre. Mais il va encore vous dominer, il va vous broyer, il va vous... Non, non! Il est bon et il est fidèle. Il est bon et il est fidèle. Alors oui, si je lui dis oui, je ne sais pas où ça va me mener. Peut-être je serai broyé. Il demande de livrer notre âme, notre vie, notre psyché. Il demande de livrer tout à lui. Père juste et bon. Père juste et bon. Oui. Ce Père juste et bon qui a un instant abandonné son Fils parce qu'il le fallait, parce que dans leur conseil avant la création, ils avaient tenu ce conseil. Le Fils savait, la croix, elle n'est pas il y a 2000 ans, la croix, elle est avant les temps. Elle a été décidée avant. Et quand les temps... accomplie, elle a été exécutée, mais elle a été décidée avant. Le Fils savait depuis le début. Nous ne serons pas abandonnés. C'est le Fils bien-aimé qui a été abandonné. Nous, il ne nous abandonnera pas, il ne nous délaissera pas, même 3 heures dans les ténèbres. Il ne nous délaissera pas, il ne nous abandonnera pas, c'est sa promesse, il l'accomplit. Alors, si nous sommes maintenant établis dans cette pensée concernant la bonté et la fidélité de Dieu, nous pouvons considérer une exhortation qui nous est donnée dans Romains 11, et je vais m'arrêter un petit peu là-dessus. Cette exhortation, vous savez, il est dit à un moment, ce verset, considérer la bonté et la sévérité de Dieu. Alors là, on tremble. Mais je crois qu'avec ce que je vous ai dit maintenant, il ne faut plus trembler. On va examiner ça un peu. Nous allons lire encore un passage assez long là-dessus. Il s'agit du peuple d'Israël, traité dans les chapitres 9, 10 et 11 de Romains. Cette espèce, il me semble, de grande parenthèse dans la lettre aux Romains. Après toute une partie doctrinale qui conclut à... Vous savez, qui se conclut avec Romains 8. Mais maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La puissance de l'Esprit de vie engloutit toutes les puissances des ténèbres et de la mort. Et puis, il y a cette espèce de parenthèse pendant 3 chapitres sur le peuple hébreu. Paul, hébreu, né d'hébreu, c'est comme si, saisi dans son exposé, il se souvenait de ses frères dans la chair, selon la chair. Ce peuple qui a rejeté le Seigneur. Et il souffre. Il dit, je voudrais être anathème pour que eux soient sauvés. Et commence une longue démonstration qui nous montre que oui, comme Israël n'a pas reconnu le temps où il a été visité, eh bien il va être dispersé pendant les nations, et cela dure encore aujourd'hui, quoique, nous savons que depuis mai 48, de ce beau jour de 14 mai 48, la proclamation de l'État d'Israël, le peuple revient. Nous sommes dans ces temps de la fin, mais pendant 20 siècles, ce peuple a été dispersé, Dieu l'a dit, parce qu'il n'a pas accueilli son sauveur. Alors, est-ce fini pour Israël? Non. Et Paul nous l'expose avec grâce et majesté. Dieu n'a pas oublié son peuple. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, ses voies ne sont pas son voie. Ce peuple, il est mis à l'écart pour un temps, jusqu'à ce que nous, les païens,
soyons entrés. Est-ce que vous ne voyez pas encore là la bonté de Dieu et la patience de Dieu ? 20 siècles que le peuple d'Israël est dispersé pour que nous, nous entrions. N'est-ce pas la bonté et la fidélité de Dieu ? Je vous invite à lire Romains 11, les versets 11 à 36. C'est un peu long, mais Dieu est patient. Alors nous allons avoir la patience d'écouter ce texte. Et le mieux, c'est que nous le lisions ensemble. Romains 11, je vous invite à lire ces trois très beaux chapitres dans Romains. Romains 11, versets 11 à 36. Donc Paul explique qu'effectivement, le peuple est tombé dans la crédulité, qu'ils sont même braqués. Et puis ils n'ont pas reconnu le Messie, alors que c'est eux qui avaient les promesses, qui avaient la parole, à qui a été confiée la loi, etc. Ils n'ont plus. Alors au verset 11, il dit ceci, « Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché loin de là ? Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous ? Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts ? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé parmi eux, ou à leur place, selon les traductions, et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est que la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi, je fusse greffé. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Demeurez ferme dans la bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi qui as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère. Tiens donc, Paul nous révèle encore ces mystères. Voyez ce dont il nous parle là. La complexité, ses pensées. Peut-être des choses pour lesquelles Pierre va dire notre frère Paul, avec des choses difficiles à comprendre. Difficiles à comprendre. Il est en train de parler de choses qui vont se dérouler sur 20 siècles, frères et sœurs. On a du mal avec ça. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne gardiez pas comme sage. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée et ainsi tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car Dieu ne se repent pas de ses promesses, de ses dons et de son appel. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même, ils ont maintenant désobéi afin que, par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Écoutez, ô profondeur, c'est Paul qui parle, profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Psaume 100, verset 5, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours. Et sa fidélité de génération en génération. Frères et sœurs, je ne sais pas vous, mais je reconnais, Seigneur me montre là, une clé. Nous avons du mal. Nous avons du mal avec le temps. Nous avons du mal à patienter. Nous avons du mal à supporter que les choses ne se règlent pas tout de suite. Nous avons du mal. L'agneau immolé n'a pas péché. Et il supporte avec patience que ceux qu'il a prédestinés entrent et nous, ceux qu'il a choisis et moi, ceux qu'il a choisis. Quelle patience ai-je avec eux? Oui, cela nous humilie, cela m'humilie, mais en même temps, cela me libère. Et me donne d'accepter ce verset de Michée 6, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, toi qui as été justifié. Que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Nous sommes si prompts à juger les situations, nous avons tellement de mal à comprendre les épreuves qui peuvent nous arriver, les difficultés que nous traversons. Arrêtons-nous, puis comprenons ce qu'est la fidélité et la bonté de Dieu à travers cette patience qui traverse les siècles. À combien plus forte raison notre vie. J'aime ce passage dans 1 Pierre qui nous dit que nous avons un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, qui nous est réservé dans les cieux, à nous qui sommes gardés par la foi, par la puissance de Dieu, et qui dit, c'est là ce qui fait notre joie, je vous en avais parlé il y a quelques dimanches. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez éprouvés par toutes sortes d'épreuves, afin que votre foi, plus précieuse que l'or, soit éprouvée, l'or qui lui-même est éprouvé par le feu. Seigneur, je reconnais, j'ai du mal quand tu éprouves. Et pourtant, tu attends depuis des siècles. Depuis des siècles, ton peuple à qui tu t'es révélé ne reconnaît toujours pas que tu es venu. Et ton peuple de la Nouvelle Alliance, ton peuple de la Pentecôte, qui a reçu ces révélations, qui dispose de ces révélations, alors je crois que cette bonté de Dieu, vous savez, celle dont Paul encore dans Romains 2 nous dit, mais toi qui juges, ne reconnais-tu pas que la bonté de Dieu, c'est la bonté de Dieu qui te pousse à la repentance. C'est encore sa bonté qui nous travaille et qui nous dit Seigneur. Seigneur, change mon regard. C'est encore Jacques. Qui nous dit, parlez, agissez comme devant être jugé par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. C'est encore ce, je ne sais plus si c'est dans Ésaïe ou dans les psaumes, dans Chronique. Avec l'homme bon, tu te montres bon. Avec l'homme pur, tu te montres pur. Avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Pas pour le condamner, pas pour le piéger. Peut-être, oui, pour lui mettre, regarde tes voies. Regarde tes voies, regarde ma bonté. Moi, si je t'amène dans une impasse, c'est parce que je voudrais que tu changes de voie. Tout à l'heure, nous avons demandé d'être remplis de son esprit. J'avais cette pensée, mais il est toujours disponible pour remplir le trône de la grâce. Le trône de la grâce, il coule en permanence. Il n'est pas asséché. Le Saint-Esprit est disponible. Pour ceux qui aiment la mécanique, il y a des hommes ici là, qui sont pointus sur les injections. Vous savez, l'injection directe dans les moteurs, c'est une pompe à injection qui est toujours prête à envoyer. Mais il faut que l'injecteur soit ouvert pour que ça gicle. Le Seigneur nous dit, on lui demande de nous remplir, on a raison. Mais lui nous dit, viens, viens, approchez-vous de lui, il s'approchera de vous. Mais au passage, il va se passer des choses. Il va nous montrer où on en est. Sa bonté et sa fidélité, sa colère dure un instant, mais sa bonté, sa miséricorde, elle durera toujours. Que nous puissions ce matin nous en souvenir et aller plus loin. Aller plus loin. On a besoin, j'ai besoin qu'on se redise cela, sa bonté, sa fidélité. Sinon, on est repris par, je conclurai par ça, par tout ce qui nous a abîmés et nous retrouverons nos réactions d'hommes, de femmes abîmés, victimes d'injustice, commettant l'injustice. Mais le Seigneur veut nous emmener plus loin que ça. Nous prions. Seigneur, oui, tu es bon. Même ton Fils bien-aimé a dit, Dieu seul est bon. Seigneur, ta bonté, nous la saisissons mal. Tellement nous avons une comptabilité étriquée, Seigneur. Tellement que ce soit ta justice, de ton équité, Seigneur. Nous avons tellement nos opinions sur ce qui est juste, et c'est souvent en mettant notre moi, Seigneur, au devant. Seigneur, nous venons devant toi et nous recevons ce matin, Seigneur, cette bonté, cette fidélité. Seigneur, tu connais les circonstances des vies des uns et des autres. Seigneur, nous voulons nous tourner ce matin. Oui, peut-être regarder cette fois-ci en arrière, Seigneur, non pas pour voir notre misère, mais pour nous souvenir, Seigneur, de toutes les fois où tu nous as secourus, où tu as manifesté ta grâce, où, Seigneur, alors que nous étions dans l'amertume, tu nous as arrachés de là, Seigneur. Nous ne pouvions pas nous en sortir, et tu l'as fait. Seigneur, ta bonté et ta fidélité sont sans limite. Elle nous dépasse, Seigneur. Seigneur, rappelle-nous. Rappelle-nous tes promesses à ton peuple qui s'étendent sur des siècles. Seigneur, qui sommes-nous pour juger que tu n'agis pas à temps? Seigneur, je te prie vraiment de venir nous fortifier, de renouveler, Seigneur, nos pensées, de saisir, Seigneur, tes voies, de voir à travers les circonstances, Seigneur, celles qui touchent, les épreuves qui nous touchent, les épreuves qui touchent nos frères et sœurs, Seigneur. Seigneur, éclaire-nous. Montre-nous comment, à travers cela, tu veux nous faire grandir. Tu nous éprouves, Seigneur, tu ne veux pas nous faire du mal, tu veux nous éprouver pour nous faire grandir, Seigneur, pour que nous soyons capables de suivre ton chemin. Seigneur, tu es venu nous chercher, tu nous as rachetés, tu nous as sauvés, tu nous as rendus capables, Seigneur, de saisir ce que tu veux de nous. Maintenant, Seigneur, avec mes frères, je te dis, oui, nous voulons te suivre. Nous voulons suivre le chemin de l'agneau, Seigneur. Celui de l'agneau immolé, celui de l'agneau crucifié, et celui de l'agneau aussi glorifié, Seigneur. Seigneur, merci de donner aux uns et aux autres l'occasion de faire le point, Seigneur, et de recevoir, de remettre nos pensées, Seigneur, conformes à ta pensée, qui est une pensée de fidélité. Sois béni et sois loué, Père. Amen.